19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de Cash sur table. Ce soir, Bruxelles est-elle devenue plus sale ou est-ce notre regard qui a finalement changé entre incivilité, manque de moyens, responsabilité politique? La propreté de la capitale, fait débat. Alors ce soir, on a pas mal d'invités pour nous en parler. Tout d'abord, Déborah Lorenzeno, qui est échevine de la propreté publique à Schaerbeek. Défi, bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, Adèle Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté, bonsoir.
Bonsoir.
Également, Simon Debeer, échevin de la propreté publique PTB à Forêt.
Bonsoir.
Et devrait nous rejoindre, normalement, dans quelques instants, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek et maire. Alors, une question pour lancer un petit peu et planter le décor. Quand on se promène aujourd'hui à Bruxelles, beaucoup parlent d'une ville plus sale qu'avant. Est-ce que c'est un ressenti ou finalement une réalité mesurable, Adèle Lassouli?
Alors moi, quand on me demande si Bruxelles est sale, je réponds non. Je réponds qu'elle est sans doute sale à certains endroits, qu'elle souffre de propreté ou d'un manque de propreté à certains endroits, mais il y a certains quartiers de la capitale qui sont particulièrement propres. Je suis bruxellois de naissance, je me promène à Bruxelles quotidiennement, à pied, à vélo, en prenant les transports en commun. Il y a des endroits qui sont particulièrement propres et des zones, malheureusement, qui présente de graves carences, de graves lacunes en termes de propreté. Je dirais que Bruxelles fait face à de nombreux défis en matière de propreté, mais comme n'importe quelle ville européenne, n'importe quelle ville importante sur le continent européen. Donc je ne dirais pas forcément que Bruxelles est sale.
Alors Adèle Lassouli, je rappelle que vous êtes porte-parole du Bruxelles Propreté. Est-ce qu'on a quelques chiffres clés sur la propreté aujourd'hui pour illustrer la situation à Bruxelles?
Alors des chiffres chez Bruxelles Propreté, on en a beaucoup de chiffres. Encore faut-il pouvoir prendre le temps de les interpréter. J'en ai retenu peut-être 3 ou 4 pour vous. Le premier concerne les dépôts clandestins, parce qu'on est aujourd'hui particulièrement sensible à cette question-là. Le public est particulièrement sensible à la question des dépôts clandestins. Chez Bruxelles Propreté, on évacue et on a évacué en 2024 quelques 5000 tonnes de déchets clandestins, de gros déchets clandestins. Il y a encore 5 à 6 ans, on tournait autour de 3000 tonnes. Donc on voit qu'il y a une augmentation substantielle. Alors c'est toujours difficile intellectuellement, si on veut être tout à fait honnête, c'est toujours difficile de se dire, est-ce que c'est parce que l'incivisme est en pleine recrudescence ou est-ce que c'est parce que le public est de plus en plus sensible et a des outils aujourd'hui pour faire des signalements, je pense par exemple à l'application Fix My Street, ou est-ce que c'est parce que Bruxelles Propreté est de plus en plus agile? Moi je pense qu'il y a sans doute un petit peu de tout ça. Puis un autre chiffre aussi très important, c'est le nombre de PV qui ont été signifiés par Bruxelles Propreté et les services de recherche et de verbalisation à l'agence. On est à plus de 3100 PV en 2025, je vais encore de vérifier les chiffres. Sur ces 3100 PV, la grosse moitié concerne des sacs qui sont sortis au mauvais horaire et qui sont pas triés. Et puis un gros millier de PV concerne des dépôts clandestins et qui sont avec des personnes qui sont prises en flagrant délit via le réseau de caméras.
Oui, on y reviendra sur la répression et la prévention. Je me tourne vers vous, Déborah Lorenzino. À Schaerbeek est souvent cité dans les débats sur la propreté. Est-ce que votre commune est plus touchée que les autres ou elle est simplement plus visible finalement?
Oui, mais donc Schaerbeek est une grande commune de la région bruxelloise et donc elle est sale, je dirais, comme les autres communes comparables de la région que peuvent être Anderlecht, Forêt ou d'autres. Donc il faut pouvoir comparer des communes qui sont comparables. Ce qui est vrai, c'est que c'est une commune donc très densément peuplée, très fréquentée, qui possède la deuxième plus grande gare du pays, qui a des zones très commerçantes, des quartiers très denses, je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, on constate que une partie de l'espace public se salit beaucoup plus rapidement qu'on a les moyens de la nettoyer. Je pense aujourd'hui qu'on ne doit plus essayer de nettoyer plus, mais qu'il faut agir sur les comportements. C'est là tout l'enjeu sur lequel on va devoir travailler à l'avenir.
Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre commune, de l'autre côté, est parfois perçue comme un petit peu la plus propre. Est-ce que c'est une question de moyens, de gestion ou finalement de comportement des habitants?
Merci pour la question, c'est plutôt sympa d'entendre ça comme ça. Je pense que c'est assez vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit lié à la taille de la commune, ça peut être différent par quartier. Mais en tout cas, moi j'étais le premier à Bruxelles comme bourgmestre à vouloir garder la propreté. Vous savez qu'un bourgmestre ou une bourgmestre, quand il ou elle prend ses fonctions, reçoit toutes les compétences et puis au premier collège, les distribue avec un accord de majorité. Et donc voici maintenant 15 ans, je me suis dit la propreté et aussi la sécurité, ce sont deux questions fondamentales dans une commune. Et j'en ai marre qu'il fasse sale. C'était à l'époque le service des travaux spécifiquement qui s'occupait de la propreté, c'était que le nettoyement. Et évidemment quand il y avait d'autres tâches, c'est toujours les ouvriers de la propreté qu'on envoyait à faire autre chose. Et donc j'ai vraiment créé un service de propreté indépendant. J'ai engagé avec le collège un coordinateur propreté qui ne fait que ça. Et on a fait bien plus que du nettoyement.
Mmh. On y reviendra en détail tout à l'heure.
Non, mais c'est important de savoir qu'on a créé, et puis on en reparlera, mais je veux dire, on a fait de la prévention, on a créé des mecs, alors ce ne sont pas nécessairement des mecs, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des médiateurs éco-citoyens qui vont sonner aux portes, qui font de la prévention, qui expliquent quand il faut sortir ou pas sortir les sacs poubelles. On a créé une déchetterie mobile, on a, et ça, vous l'avez fait à Scarbeck aussi, je pense, mis des caméras mobiles pour pouvoir, à tout moment, pouvoir faire de la répression. On a créé de toutes pièces, ça n'existait pas, une brigade répression avec 8 personnes. Et on a créé de toutes pièces un service d'étagage qui est particulièrement efficace. Actuellement, les hommes me disent, monsieur, on détaque plus vite qu'ils ne taguent. Et donc, on a enlevé 1800 tags l'année passée. Et ça, c'est très, très important. Voilà, j'étais déjà pensé un petit... Mais c'est devenu une priorité du collège, la propreté, je pense que ça se voit.
Alors, Simon Debert, je rappelle que vous êtes échevin de la propreté publique, PTB à Forêt. Vous parlez souvent de services publics sous pression. Est-ce que, d'après vous, la saleté, entre guillemets, c'est un symptôme d'un manque d'investissement ?
Oui, très clairement. Donc, si on prend Bruxelles, hein, parce que c'est valable pour l'ensemble des communes, on est quand même une capitale internationale, avec 350 000 navetteurs par jour, 10 millions de touristes, on voit qu'on est une capitale très jeune, les jeunes utilisent beaucoup plus l'espace public, et donc forcément ça a des conséquences en termes de propreté. On a aussi une population de beaucoup d'origines qui bouge beaucoup, qui parfois a appris d'autres règles de propreté parce que les services fonctionnent différemment ailleurs, et donc on a besoin de financement qui soit à la hauteur d'une métropole internationale en fait, et on a plutôt un financement qui ressemble à celui d'une ville moyenne. Et donc je pense que si on veut relever le défi de la propreté, évidemment qu'on peut améliorer toute une série de choses avec les moyens existants. C'est ce qu'on fait comme échevin, comme échevine, tous les jours. Mais c'est clair qu'il faudrait avoir plus de moyens. Et donc, pour ça, on a besoin d'un refinancement de Bruxelles. Parce que ce n'est pas que pour les communes, hein, c'est aussi pour notre agence régionale. Je pense que le financement, c'est souvent le nerf de la guerre. Et pour la propreté, c'est vrai aussi.
Alors, vous parlez de Bruxelles, capitale internationale. Justement, est-ce que Bruxelles est réellement plus sale encore, j'utilise ce mot souvent, que d'autres grandes villes européennes comparables à Delle Sully?
C'est ce que je disais il y a un instant. Je pense que Bruxelles, à certains endroits, dans certaines zones, dans certaines communes, connaît des problématiques qui sont tout à fait différentes de celles qu'on peut rencontrer en première couronne, de celles que Madame Lorenzino peut rencontrer à proximité de la gare du Nord, où on a des publics en errance, un public marginalisé, où on a des problèmes de toxicomanie, donc les problèmes d'Etterbeek ne sont pas ceux d'Oluet-Saint-Pierre ou d'Auderghem. Donc dire que Bruxelles est sale et faire comme ça des constats à l'emporte-pièce, moi c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Je pense que, et encore une fois, il faut le marteler, Bruxelles est salie beaucoup plus qu'elle n'est sale. Il va falloir travailler beaucoup plus sur les comportements, mais pas que, parce qu'il ne faut pas non plus responsabiliser à outrance les individus, pouvoir travailler sur des dispositifs qui sont capables d'accueillir les encombrants, faciliter la vie des Bruxellois. C'est là aussi qu'on nous attend en tant que service public. Et donc il y a un travail qui est fait, qui est réalisé notamment au niveau des reciparcs mobiles, qui sont ces dispositifs itinérants qui sont proposés à Forêt, qui sont proposés à Scarbeck par exemple, où là on essaye deux fois par an de programmer des campagnes, des semaines où on va jusque dans les quartiers au plus proche des citoyens pour leur permettre d'évacuer toute une série de déchets, que ce soit des déchets chimiques, des petits déchets chimiques, des encombrants. Et ça évidemment c'est important, on doit pouvoir continuer à offrir des services adéquats aux Bruxellois. On est en train de travailler sur la programmation d'un nouveau reciparc à Jette. On en a déjà 6 aujourd'hui. C'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant par rapport à la densité bruxelloise. Et il faut travailler sur des solutions comme celle-là pour lutter contre ce sentiment de saleté qui revient dans toutes les enquêtes de sécurité. Hein. C'est, comme l'a dit le bourgmestre d'Etterbeek, M. De Wolf, la propreté et la sécurité, c'est vraiment les deux mamelles d'une problématique qui revient de manière très récurrente dans le débat public.
Déborah Lorenzino, est-ce que Bruxelles peut ou doit faire mieux pour, disons, polir cette vitrine de capitale de l'Europe?
Ben, c'est clair qu'aujourd'hui, on remarque que, en tout cas, les citoyens se plaignent beaucoup, je pense, à raison pour certains quartiers de la propreté, et donc il est du devoir des autorités publiques de faire mieux. Alors peut-être que j'anticipe un petit peu sur la suite du débat, et Monsieur Lassouli me voit venir, mais donc il y a, je pense, un point qui pour moi est un point noir total à Bruxelles, c'est le système de collecte en porte-à-porte qui, de facto, amène des sacs poubelles quasi quotidiennement au sein de la région bruxelloise, dans les rues, et avec les sacs poubelles, on y retrouve plein d'autres choses. Je pense que le système est dépassé. On a vu que dans d'autres villes européennes où on avait changé le cadre et qu'on était passé à un système de points d'apport volontaire, ça permet de sensiblement améliorer les choses. Je pense que c'est clairement une direction dans laquelle on doit s'inscrire progressivement, mais certainement.
Votre avis, Vincent De Wolf, sur ce justement système de collecte porte-à-porte?
Oui, donc tout d'abord pour M. Lassouli, parce qu'il est nouveau dans ses fonctions, je suis heureux de voir qu'il fait quand même
3 ans, quasiment 3 ans, M. De Wolf. Mais on est toujours en apprentissage.
Moi, ça fait 34 ans, donc évidemment,
c'est clair.
Voilà, chacun son point de vue. Mais je dis ça parce qu'on était la première commune à inventer la déchetterie mobile. Ça n'existait nulle part. Et on n'a pas de mérite, enfin, on en a, mais c'est parce qu'on n'a pas de possibilité spatiale de créer une déchetterie. On ne sait pas le faire physiquement. Et donc, c'est un fonctionnaire qui a inventé ça, qui a proposé, qui est venu me voir en disant, si on allait quartier par quartier, dans 5 quartiers, mais là, ce n'est pas 2 fois par an, c'est tous les mois.
C'est une idée géniale.
C'est tous les mois, sauf durant les mois d'été, et donc ça marche vraiment bien. Alors nous, on est membre aussi d'une association des villes en propreté. On a été les premiers à Bruxelles à se faire membre de cette association. Et c'est intéressant parce qu'il y a des études. Est-ce que si on met plus de poubelles, est-ce que c'est mieux si on n'en met pas? Est-ce que c'est mieux? On échange des bonnes pratiques.
C'est la VPU, je pense.
Oui, c'est ça. Oui.
On est plusieurs en être membres, en effet.
Oui, mais donc voilà, c'était pas mon initiative à l'époque. C'était les Schwingeuten qui s'occupaient de la propreté. Elle était la première à se faire membre de cette association. C'est assez vertueux. Les sacs, alors oui, le problème c'est quoi? C'est des containers, parce qu'il y a le problème des rats. Avec notamment les déchets de toute nature qui peuvent attirer les rongeurs, les corneilles, les renards, les rats, c'est une véritable calamité. Quand vous avez des sacs qui s'ouvrent, qui sont écrasés, éclatent dans la rue, évidemment, avec un coup de vent, c'est partout. Évidemment, Bruxelles, le sous-sol est compliqué, il y a des canalisations partout, je me bats positivement avec la BP et on va y arriver pour à la place Jourdan, qui est un peu une place quand même fort emblématique juste à côté de l'Union européenne, de pouvoir enfouir évidemment dans des containers enterrés. C'est compliqué, mais c'est une solution. Le problème aussi des collectes, on ne va pas refaire tout le débat. Je m'étais un petit peu battu avec M. Marron à l'époque parce que la façon dont ça avait été conçu, ce n'était pas top, mais ça s'est amélioré. Oui, c'est vrai que le problème des sacs est souvent un indice de malpropreté important. Maintenant, il y a quand même des collectes la nuit, le soir, c'est amélioré, mais c'est loin d'être parfait. L'exiguïté des rues, l'ancienneté de la ville, la densité de la ville rend complexe ce phénomène.
Alors, Simon Debert, votre avis justement, est-ce qu'il faudrait revoir, réformer un petit peu le système actuel de collecte porte-à-porte notamment?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de villes qui ont changé leur système de collecte des déchets, et que Bruxelles, ça devrait passer par là aussi. Après, on l'a expliqué, c'est compliqué. Bruxelles est particulièrement dense, 7000 habitants au kilomètre carré en moyenne, c'est plus qu'une ville comme Berlin. Donc on doit tenir compte aussi des particularités de Bruxelles. Mais beaucoup d'habitants me disent les rues ne sont jamais aussi sales qu'après le passage des camions poubelles. Et donc on a un problème à ce niveau-là. Je pense que des sacs déjà de meilleure qualité, ça pourrait aider parce que c'est aussi un problème. On travaille déjà à essayer d'augmenter le nombre de containers, par exemple, dans les immeubles qui peuvent en bénéficier. Donc ça, ce sont des solutions intermédiaires. Utiliser les containers pour les sacs oranges. Mais fondamentalement, ce système de collecte de déchets est assez archaïque. dans beaucoup de pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il y a aussi des difficultés pour des nouvelles populations qui arrivent de comprendre bien les heures, parce que parfois aussi les tranches sont particulièrement courtes. Et donc, c'est un ensemble de choses qui rend, à mon avis, ce système un peu obsolète. Et donc, il faudrait l'améliorer, changer. Mais ça, ça demande de grands investissements. Et donc, ça doit se faire au niveau de la région. Et pour ça, il faut... Je reviens au début, mais il faut de l'argent, il faut un master plan, et ce n'est pas les communes elles seules qui peuvent mettre ça en place.
Le nerf de la guerre, bien évidemment. Une réponse, une réaction peut-être, Adèle Lassouli. Je sais que Bruxelles Propreté fait beaucoup de travail sur le terrain.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait revoir aussi un petit peu...
Alors, on n'est pas nulle part hein, sur la question des conteneurs enterrés. On a 43 sites aujourd'hui où on a ce qu'on appelle des espaces tri. C'est principalement des bâtiments neufs, des sites où des promoteurs ont construit des bâtiments pour des habitations de plus de 150 appartements. Donc, on a aujourd'hui 43 espaces tri avec des conteneurs enterrés. On a mené une étude ces derniers mois, ces dernières années. On a fait un benchmark de villes européennes, de villes belges. Et on voit que, par exemple, une ville comme Anvers a fait marche arrière, a fait un virage net par rapport à la question des conteneurs enterrés, parce que ça génère également d'autres problèmes, notamment la question des dépôts clandestins. Et donc, on a pu observer à travers ces études, en interrogeant différentes municipalités, que la problématique des dépôts clandestins, elle a tendance à s'accentuer avec le temps par rapport aux conteneurs enterrés. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre le principe, puisque de toute façon, c'est aux politiques et au prochain exécutif de décider ce qu'il a envie de faire et ce qu'il fera. Mais c'est important de savoir qu'on présente souvent cette solution comme une solution magique, une solution miracle. Notre avis, c'est que ça peut marcher dans certains quartiers, dans des quartiers qui sont moins densément peuplés, où il y a de la place. Je mets au défi n'importe quel décideur, n'importe quel élu local, de trouver de la place pour des conteneurs enterrés dans une commune comme Saint-Josse. Avec les impétrants, il n'y a pas de cadastre des tuyaux qui passent sous les pavés, donc c'est très compliqué de mettre ça en place. Deuxième petit bémol que nous voyons à l'agence, c'est les résultats en termes de tri. On est très attendu au niveau européen en termes de recyclage. On doit arriver à, d'ici 2030, à 60% de fractions qui sont recyclées. On constate que dans les conteneurs enterrés, il y a une forme de déresponsabilisation, de démission. C'est un peu cacher le déchet que je ne saurais voir. Et là, on voit que les résultats sont catastrophiques par rapport à la fraction déchets alimentaires. Ça se retrouve mélangé aux déchets résiduels. Et donc, on se retrouve avec des fractions qu'on pourrait valoriser via biométhanisation ou via compost, et malheureusement des fractions qu'on doit incinérer. Donc là aussi, c'est une gabegie totale. Alors, on y travaille, on pourrait imaginer des maillages par quartier avec des quartiers où on pourrait travailler en sac, des quartiers où on pourrait travailler en conteneur enterré et travailler sur la complémentarité. Encore un chiffre, on a fait une estimation à l'agence, si on devait basculer d'un système de sac vers un système de conteneur enterré, ça coûterait à la collectivité quelque 200 millions d'euros. Donc ça, c'est aussi un chiffre à prendre en compte. Si à un moment donné, les décideurs et les gens qui seront au gouvernement, qu'on appelle de tous nos voeux évidemment, décident à un moment donné de passer du système de collecte en porte-à-porte à un système comme celui-là, ça va coûter de l'argent. Encore une chose, on a une population qui est vieillissante à Bruxelles. Je ne vais pas rentrer dans des considérations démographiques, mais en échangeant avec beaucoup de gens, la question de l'accessibilité à des personnes qui ont des modes de vie beaucoup plus sédentaires, à des PMR, si vous devez leur demander de parcourir 50, 60 mètres, 100 mètres avec des sacs poubelles, c'est particulièrement problématique aussi. En tout cas, c'est aussi un frein dont il faut pouvoir tenir compte, mais nous sommes ouverts à toutes ces propositions d'innovation et il y a énormément d'études et de réflexions sur la table aujourd'hui.
Nous, on a distribué gratuitement, mais ça ne marche pas dans tous les quartiers. Il faut reconnaître que dans les grands immeubles à appartements, s'il n'y a pas de gestion de containers avec des concierges qui n'existent plus et des locaux adéquats, c'est compliqué, mais on a distribué quand même plusieurs centaines de poubelles de 60 ou 80 litres noires, floquées avec le nom du bâtiment, avec l'adresse et le numéro.
Ça marche très bien.
Ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Alors, il faut aussi, parce que moi je suis dans un quartier comme ça, donc j'ai aussi reçu la poubelle, on a deux. Si vous laissez votre poubelle, en 2 heures après le passage, elle est remplie. Hein. Tous les gens qui passent utilisent votre poubelle, mais ça c'est juste pour faire un petit sourire. C'est une solution, mais qui est partielle, parce que dans certains quartiers très denses, on peut parler de Saint-Josse, mais il y a ça aussi, par exemple à la chasse, dans différents quartiers sur Etterbeek, ça marche pas parce que les gens n'ont pas la place pour stocker. Donc je crois qu'il faut avoir une multitude de possibilités, mais celle-là, la distribution, donc chaque année on en achète, on distribue, on profite pour faire des points de distribution, on profite pour que les médiateurs éco-citoyens soient là, pour éduquer les gens à la propreté, pour leur donner la mentalité, hein, par rapport à ça, et ça c'est une piste de solution partielle.
Alors, Simon Debert, beaucoup de citoyens se posent la question, est-ce que c'est les sacs poubelles qui salissent le plus, ou bien il y a les particuliers, les commerces, les chantiers, les événements, ou c'est un peu de tout à la fois, qui est le principal responsable?
C'est un peu de tout. Je pense qu'on doit, voilà, on est une ville très dense, donc si je prends Forêt, c'est 9000 habitants au kilomètre carré, mais de ça il faut retirer quand même 2 grands parcs et un zoning industriel très grand aussi. Donc en fait, on est à certains endroits, on est à 20000 habitants au kilomètre carré, donc nécessairement ça génère plus de saleté. Beaucoup de personnes qui vivent dans des petits appartements aussi, qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets. Donc ça, c'est aussi un petit appel à Bruxelles Propreté pour dire que si on passe de 2 collectes à 1 collecte dans certains quartiers, ça va vraiment être très compliqué pour les gens. Et donc, on a tout ça. On a des nouvelles populations, j'ai dit, qui ne connaissent pas les règles encore maintenant. Quand on a fait le triathlon de la propreté avec Bruxelles Propreté il y a quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un certain nombre de gens qui ne connaissaient pas les horaires de sortie des sacs poubelles. C'est que 5%, mais 5%, ça suffit dans une rue pour générer pas mal de nuisances. Pour les dépôts clandestins, je fais le raccourci, pour les encombrants qui se transforment en dépôts clandestins, c'est 17% des gens qui n'étaient pas au courant de comment faire. Donc je pense que à Bruxelles, on a vraiment une ville multiculturelle, très dense, et donc tout ça génère beaucoup plus de saleté que dans d'autres villes qui sont moins densément peuplées. Ou qui bouge moins que Bruxelles.
Une réaction
Oui, si vous me permettez, je rebondis sur ce que dit M. Debert, parce qu'en fait, le véritable problème à Bruxelles, c'est le turnover de population. Et donc, forcément, quand vous avez un grand turnover d'habitants, vous n'avez pas le même sentiment d'appartenance. Et c'est ce qu'on observe. Hein. On voit des communes de la deuxième couronne, par exemple, où il y a un turnover qui est moindre, notamment dans votre commune, me semble-t-il, ou des communes comme Olué-Saint-Pierre.
Ça, je vais en parler.
Comme Olué-Saint-Lambert. Ce sont des communes où il y a forcément un sentiment d'appartenance et un contrôle social qui est beaucoup plus fort que dans des communes où il y a en permanence des mouvements de va-et-vient avec des populations qui ne connaissent pas les règles ou qui ont tendance à les oublier. Je dis ça en ne stigmatisant personne, mais le turnover, c'est vraiment aussi une façon de ça doit pouvoir, c'est un prisme à travers lequel il va falloir pouvoir travailler.
Oui, très rapidement là-dessus, si vous permettez, parce que c'est toujours agréable de se faire comparer à Saint-Lambert ou à Saint-Pierre, mais c'est pas vrai en fait.
Peut-être pas pour tous les quartiers d'Etterbeek, hein, je le concède.
C'est absolument pas vrai. Parce qu'il y a un facteur qu'il ne faut pas sous-estimer, qui n'existe pas dans ces communes-là, mais qui existe dans les communes du centre, c'est le Airbnb. Le Airbnb, c'est une véritable catastrophe du point de vue de la propreté. Donc quand vous êtes à Jourdan, vous remontez toutes les rues qui vont jusqu'au Derguem et au-delà, y compris alors dans les quartiers de maisons de maître, là sur l'avenue de l'Armée, vous avez du Airbnb partout, parce que ça rapporte un argent fou et ça détruit la ville, parce que vous avez des gens qui arrivent pour 2 nuits, 3 nuits, en dernière minute. Ils ne connaissent pas les règles, ils font n'importe quoi, ils doivent courir pour prendre leur avion, ils jettent leur sac par terre, ils ne connaissent pas les heures de collecte, ils ne connaissent pas les systèmes. Et en plus, sur Etterbeek, on a, en 6 ans, un turnover complet de la population. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui reste, mais les 2 tiers tournent 2 fois sur 6 ans. Et donc c'est un vrai challenge de communication, c'est pourquoi on a fait ce système avec les médiateurs éco-citoyens qui plusieurs fois par an vont sonner aux portes, ils parlent plusieurs langues, on fait des trucs dans plusieurs langues, parce que c'est pas seulement un problème de mauvaise volonté, c'est un problème de méconnaissance, mais il y en a aussi qui ne veulent pas comprendre, c'est pourquoi dans ma commune par exemple, je ne pouvais plus supporter qu'on me dise « j'ai pas vu la poubelle, j'ai jeté à côté ». Maintenant, moi, j'ai des poubelles qui sont jaunes flashy, qui ne peuvent plus être incendiées. Elles sont en alu avec un cendrier incorporé. Et ne pas la voir n'est plus possible. Et donc, ça aussi, c'est une solution.
Voilà, je vais donner la parole tout de suite à Déborah Lorenzino. C'est promis, mais juste après une petite pause. À tout de suite.
Jusqu'à 20h. 19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités, Déborah Lorenzino, échevine de la propreté publique des filles à Schaerbeek, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, et maire, bien évidemment, Simon Debé, échevin de la propreté publique PTB à Forêt, et Adèle Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté, qui est avec nous ce soir. Je vous avais promis de donner tout de suite le micro après l'antenne, pour parler des comportements, si vous voulez bien, à présent. Est-ce que, pour vous, c'est avant tout un problème d'incivilité?
Mais oui, bien sûr. Donc, on s'est fort focalisé sur le système institutionnel et les complexités en termes opérationnels ici dans la première partie de débat. Mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, si une ville est sale, c'est parce que quelqu'un l'a salie. Et donc, c'est parce qu'effectivement, on est confronté à une recrudescence d'incivilité, à tout le moins depuis le Covid. Il est en effet important, je pense, de sans cesse rappeler les règles. C'est un travail sans fin. On va sonner à des portes dans un quartier, mais la population se renouvelle, les gens déménagent. Il faut recommencer 6 mois, 1 an plus tard. Et puis, il faut le dire aussi, et les gens sont en demande qu'on lutte vraiment contre ce sentiment d'impunité des salisseurs. Il faut, lorsque il n'y a pas d'autre moyen, avoir le courage de verbaliser les habitants de sa commune. C'est pas quelque chose de facile, mais il faut pouvoir assumer cette responsabilité.
Mmh. Simon Debert, est-ce que les habitants aujourd'hui à Bruxelles sont suffisamment informés sur les jours de collecte, les tri et les règles à respecter? On en parlait en off tout à l'heure. C'est bien, mais on peut mieux faire.
Oui, ben comme j'ai dit, on a organisé un triathlon de la propreté en collaboration avec Bruxelles Propreté. Et donc là, on a eu quelques informations, puisqu'il y a des porte-à-porte qui ont été faits. Et donc, oui, il y a encore des gens qui ne connaissent pas les règles. 17% pour se débarrasser de ces encombrants. On a aussi lancé à échelle locale des porte-à-porte à nous pour compléter l'offre qui était faite par Bruxelles Propreté, aussi un peu sur le modèle des mecs dont je viens apprendre l'existence. Et donc, on a fait quelques tests. Notamment, il y avait une rue où il y avait systématiquement, tous les soirs, des sacs non conformes sur une même oreille de trottoir. Et donc, on a identifié 3 maisons avec une population qui ne parlait pas le français. Et en fait, en sonnant et en discutant, on s'est rendu compte que la première dame à qui on a posé la question, elle a dit bah oui, quand je suis arrivé, j'ai demandé à mes voisins qu'est-ce que je devais faire avec mes déchets. Ils m'ont dit tu mets dans un petit sac et tu les poses sur le coin. Et ce sera parti le lendemain. Et donc, en fait, cette légende urbaine se répétait avec chaque nouveau arrivant. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a un manque de connaissances, notamment pour les personnes qui ne parlent ni français ni néerlandais et à qui on doit accorder une importance particulière.
Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, Adèle Lassouli, pour renforcer cette prévention à l'échelle communale?
Ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à renforcer, donc là on a travaillé sur les triathlons de la propreté, on l'a fait à Schaerbeek, on l'a fait à Etterbeek, on l'a fait à Forêt. Je rappelle les principes de ce triathlon, c'est plusieurs phases. La première phase, c'est un moment de comptage, on compte le nombre de sacs poubelles qui n'ont rien à faire en rue à ce moment-là. Et puis ensuite, on va sonner aux portes, on va rencontrer main dans la main avec les agents communaux, on va rencontrer la population des quartiers dits problématiques ou en tout cas sur lesquels on a décidé de travailler avec les communes, on sonne à leur porte, on rappelle un certain nombre de règles, on distribue un certain nombre d'outils. Et puis, dans la troisième phase, il y a une phase de verbalisation où là, on fait mal au portefeuille et on revient en dernière phase pour constater si oui ou non il y a eu des améliorations. Alors, de mémoire, je pense qu'à Forêt, on était entre la première phase et la dernière à une 20% de salissures en moins. Pour Schaerbeek, je pense qu'on tournait entre 15 et 20% de salissures en moins, et à Etterbeek, qu'on a été particulièrement bon, je ne dis pas bon uniquement du côté de l'agence, mais également avec la commune, puisqu'on a réussi à avoir 44% de sacs mal sortis en moins. Et donc, ce qu'il va falloir faire à l'avenir, c'est de continuer ces opérations où l'on mêle la sensibilisation et la répression. On a fait sur cette opération 550 PV, de PV qui en moyenne, atteignent les 300 euros par PV. Et donc, ce sont des messages qu'il faut renforcer, il faut taper sur le clou, mois après mois, notamment avec ces triathlons de la propreté qui ont connu un certain succès.
Alors, si je pouvais simplement donner une intervention là-dessus, parce que nous, on a un peu inversé le système. Au lieu d'enlever tout de suite ce qui est sur les trottoirs, on l'a montré, on l'a stigmatisé. On a été jusqu'à colorer en orange les crottes de chiens, par exemple. Et lorsqu'il y avait des dépôts clandestins, on mettait des barrières
Nadar là autour, avec des bâches qu'on a floquées à l'avance, en expliquant ce que c'est, en disant que ça coûte combien, si on vous attrape, ça fera autant.
Comme si c'était une scène de crime, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Et alors, on laisse ça un certain temps, qu'on arrange avec les hommes de la propriété, puis on l'enlève, et donc ça crée petit à petit un changement de mentalité, et rapidement, sur les taxes, ça, c'est quelque chose qu'on a inventé, personnellement, je l'ai inventé, c'était d'en fait, avoir un agent qui passe son temps à marcher en rue, à faire des photos des taxes qui sont sous les façades. On a une convention qui a été faite, qui a été votée en conseil communal, un règlement qui a été voté en conseil communal, où on remet un avis dans la boîte et on dit aux personnes, il y a un taxe sur votre façade. On a un service de délagage gratuit qui peut se faire dans un délai extrêmement court. Ou bien vous marquez accord, on vient détaguer et vous signez la convention. Ou bien vous ne le faites pas et on vous taxe. Mm-hmm. Mais je peux vous dire qu'on ne taxe pas.
Une réaction déborde.
Évidemment que les gens marquent accord pour qu'on vienne nettoyer et ça va vite. Hein.
Oui, c'était pour compléter en matière de sensibilisation et de prévention. Moi, il y a un aspect qui me tient particulièrement à cœur, mais qui vise plutôt le long terme. C'est tout ce qui est sensibilisation avec les enfants dans les écoles, où à Scarbeck, on est très présent. Alors évidemment, ça porte ses fruits. Voilà, c'est en espérant que l'adulte de demain soit sensible à cette question-là. C'est aussi un vecteur de discussion et de dialogue à la maison avec les parents et donc au travers des enfants aussi pouvoir toucher l'ensemble de la famille.
Renforcer, oui.
On va rebondir là-dessus. Donc, je soutiens totalement cette idée. On est aussi en train, on a contacté toutes les écoles de forêt aussi pour faire directement des initiations à la propreté dans les écoles. Et on a même la chance d'avoir ouvert sous cette législature une école de la propreté, toujours dans cette idée qu'il faut renforcer l'aspect sensibilisation. Nous, on a un plan propreté à trois niveaux, sensibilisation, qualité du service et contrôle. Et donc cette école de la propreté, qui est située dans un quartier bien spécifique, organise des actions de sensibilisation, des permanences. On a engagé aussi une actrice qui travaille avec le service propreté, mais sous un angle beaucoup plus ludique, et qui va haranguer les gens, qui organise des spectacles, qui va aussi dans les écoles. Et on voit que ça porte ses fruits et que c'est vraiment très efficace.
Mmh. Vincent de Wolf, renforcer les amendes, c'est important, mais aussi privilégier davantage la pédagogie, c'est important de le rappeler.
Oui, donc on organise, mais vous aussi, je suppose, des clean-up days dans lesquels on... Parce que Etterbeek a la densité scolaire la plus importante du pays. Petite commune, des grosses écoles partout. On a Saint-Michel, on a Absil, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais on a des milliers d'élèves qui viennent tous les matins. Donc c'est aussi un élément qui salit la ville. Parce que quand on est adolescent, on est en révolte et donc on n'a pas envie de mettre dans la poubelle, on met à côté de la poubelle. Mmh. Et donc, on fait des clean-up day ensemble, on a des formations, effectivement, ensemble. Et moi, je pense que l'aspect de la répression est important, mais qu'il faut donner l'alternative. Et donc, on est en train de mettre en place les sanctions alternatives en matière de propreté. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Parce que si vous recevez une médiation qui dit « Vous devez payer autant comme sanction, comme sac, hein, donc sanction communale, mais vous pouvez ne pas le payer si vous faites telle opération de nettoyement. » Moi, je crois beaucoup à ça. On va démarrer ça. Et on va aussi mettre les jeunes là-dedans. On a une politique où les préfets ont été rencontrés, les directeurs ont été rencontrés. Et quand il y a des jeunes qui sont pris en flagrant délit d'une salissure, eh bien, il y a une procédure qui évite qu'ils soient sanctionnés, mais ils doivent alors aller chez le proviseur, le préfet, le directeur. Les parents sont invités, il y a une explication. Et moi, je crois effectivement, ce changement de mentalité, il est lent. J'ai des amis dont l'ancienne échevine de propreté qui a été au Japon. Alors, je ne dis pas que j'aimerais vivre au Japon parce que je pense que c'est nécessairement beaucoup plus carcéral et beaucoup plus sévère comme mode de vie. Mais c'est très impressionnant. Il n'y a aucune poubelle. Aucune poubelle. Et on mange par terre. Ils m'ont fait des photos. Et tout le monde a son contenant pour les déchets avec soi. Oui. Et personne ne jette rien. En Suisse allemande, c'est la même chose. Donc, c'est aussi un problème de mentalité, d'éducation et de respect des gens qui nettoient aussi des villes.
Alors, on va marquer une courte pause avant dans notre troisième et dernière partie. Ne bougez surtout pas. Vous êtes bien dans Cache sur table sur Arabelle.
19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Voilà, en troisième et dernière partie, qu'est-ce qu'on va faire maintenant concrètement? Je me tourne peut-être vers vous, Déborah Lorenzeno, pour voir d'abord quelles initiatives locales ont donné déjà des résultats concrets dans votre commune à Schaerbeek.
Oui, ben alors moi, il y a deux initiatives particulières que je souhaiterais mettre en avant. Donc la première, c'est, ben, alors elle n'est pas très originale, mais c'est les caméras intelligentes qui ont vraiment changé et facilité le travail de répression. Et je vous le disais, il est nécessaire et de plus en plus les citoyens nous demandent de verbaliser les salisseurs. Et alors il y a une action très simple, c'est cette petite affiche « Ma rue propre » qu'on distribue en fait aux riverains d'un quartier, souvent avec des actions qui sont réalisées avec le balayeur et des habitants d'une rue. Et c'est un travail qui coûte pas très cher, qui demande juste de l'investissement humain, mais on associe les habitants qui parviennent souvent mieux que les pouvoirs publics à sensibiliser leurs voisins. Ça crée des dynamiques collectives et ça crée un contrôle social qui fait que les voisins arrêtent certains comportements.
Oui, j'ai cette pancarte à ma fenêtre depuis pas mal de temps déjà. Simon Debert, le PTB, vous vous plaidez pour la gratuité ou la simplification de certains services liés aux déchets?
À Bruxelles, on a encore la chance que la plupart des services de propreté soient gratuits et on pense que c'est important. On a aussi un des sacs les moins chers de Belgique et on a vu que dans certaines communes, on passe parfois des tarifications compliqué, mais en plus assez élevé. On pense que c'est certainement pas la bonne voie à suivre. Donc de ce point de vue-là, on préfère continuer comme c'est maintenant. On pense que la propreté, ça fait partie des services publics qui doivent être financés par la collectivité. Et donc on veut même aller vers plus de services gratuits. Il y a la question des encombrants. Donc, par exemple, on a lancé depuis l'année passée un nouveau service d'enlèvement des encombrants à domicile pour les personnes à mobilité réduite et de plus de 65 ans, parce qu'on sait que c'est particulièrement compliqué, même s'il y a les Rossi Parc Mobile qui viennent, ils peuvent être à 200 mètres, mais c'est déjà trop loin, et donc les services communaux aident ces personnes-là sur inscription, et donc on veut étendre les services, et de préférence gratuits, oui.
Alors, on parlait en off tout à l'heure, et ça m'a intrigué, a été avec cette camionnette spéciale pour sanctionner Vincent
oui.
De Wolf.
Ben oui, donc... Je crois qu'il faut faire de la transversalité et il faut que la propreté concerne absolument tout le monde. Et donc, moi, comme je suis chef de la police au niveau administratif et disciplinaire, j'ai vraiment veillé à ce que dans le plan zonal de sécurité, la propreté soit très haut dans les priorités. Tous les policiers sont compétents pour sanctionner pour la propreté. Et donc, on collabore bien avec l'agence bruxelloise pour la propreté qui nous prête leur sous-marin. Donc, c'est ce que la police emploie aussi pour faire des planques sans être vu. C'est-à-dire que c'est une vitre teintée. De l'intérieur, on voit l'extérieur. De l'extérieur, on ne voit pas à l'intérieur. C'est très efficace. On fait ça la nuit. Donc, c'est évidemment assez prégnant en termes d'heures de travail des agents, mais ça marche bien. On a des systèmes aussi où on fait des contrôles avec l'aide aussi de l'AFSCA, avec l'aide de l'ABP, la police, nos agents, des policiers à moto. Quand on voit des camionnettes qui circulent, on les amène dans un peu comme quand on fait un contrôle d'alcootest ou d'alcoolémie.
Bien sûr.
Et souvent, on trouve alors des déchets clandestins, on trouve des déchets chimiques, on trouve des briques en grand nombre. Et on vérifie, est-ce qu'ils sont entrepreneurs, pas entrepreneurs, d'où ils viennent, où ils vont, etc. On dresse infraction, on les oblige à aller à la déchetterie régionale. On les oblige à revenir le jour même ou le lendemain avec la preuve qu'ils l'ont fait, et sinon ils ont encore une sanction supérieure. Alors, les médiateurs éco-citoyens, je vous en ai parlé, la brigade de répression, c'est évidemment important, les ambassadeurs de propreté, ça aussi c'est bien, on vient d'en parler, on a fait ça il y a très longtemps, c'est que par rue, on a un ou une responsable pour la propreté qui est un citoyen, on les réunit tous les mois, on fait des baromètres propreté, tous les deux mois, on reçoit l'ensemble des différents secteurs, et... je voulais le dire, je l'ai dit hors antenne, la motivation des agents de la propreté, les femmes et les hommes qui nettoient en rue, il faut les motiver. Et donc, moi, je leur ai dit, j'étais les voir, je les vois souvent dans le dépôt, je leur dis, écoutez, c'est pas que pour les cols blancs, le team building. Le team building, c'est pour vous aussi. Et donc, deux fois par an, on leur dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme activité? Est-ce que vous voulez faire du sport? Est-ce que vous voulez faire une découverte? Est-ce que vous voulez faire un truc culturel? Vous voulez faire un voyage? Et donc, on fait ça avec les... On a aussi amélioré leur quotidien. Et ça, c'est très, très important, parce qu'il faut qu'ils aient envie. Et à ce moment-là, quand on va travailler avec envie, avec son balai, sa charrette ou son camion, on travaille mieux.
Alors justement, quelques mots à Adèle Lassouli pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent au quotidien pour rendre Bruxelles encore plus propre.
Bah, plus que les motiver, j'ai envie moi de les remercier, évidemment. Je pense que l'ensemble des personnalités qui sont autour de la table seront tout à fait d'accord avec moi, parce qu'ils et elles font un travail formidable, où il y a une forme de pénibilité, et c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, hein. C'est cet homme qui est condamné finalement à envoyer ce rocher, il dévale la colline, et puis le lendemain, il doit à nouveau remonter ce petit rocher, donc c'est un travail qui est à refaire continuellement. Et donc c'est clair, ils ont besoin de notre reconnaissance, ils ont besoin de notre motivation et ils ont besoin aussi de conditions de travail les plus agréables possibles, ça c'est important. Peut-être un mot aussi sur les solutions à mettre en œuvre, une solution à laquelle on ne pense pas assez ou qui n'est pas suffisamment mise en avant dans le débat public, c'est la question des réaménagements publics. On l'a expérimenté sur l'avenue de Vilvoorde, qui est une avenue qui n'est pas très loin de Skaarbeek et du centre commercial qui se trouve à côté du pont Van Praat. On a travaillé avec la ville de Bruxelles, avec Bruxelles Mobilité, parce qu'on avait un problème avec des poids lourds qui étaient stationnés là pendant de très longues heures et parfois de longues journées. Et certains entrepreneurs ou des faux entrepreneurs se cachaient derrière ces poids lourds pour évacuer leurs déchets clandestins en toute impunité. Et on a installé avec la ville de Bruxelles des blocs en béton pour limiter le stationnement et on a vu des résultats très rapidement. Pareil du côté du boulevard du Midi où désormais le stationnement des camionnettes est interdit sur le terre-plein qui se trouve au milieu, là où la foire du Midi prend ses quartiers en été. Et là aussi, on constate moins de déchets clandestins. Donc ce sont des quick wins, des gains rapides qu'on peut mettre en place en travaillant sur l'aménagement, en renforçant le contrôle social, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas des éléments urbains qui servent de cache-misère pour des déchets.
Alors je me tourne vers vous, Déborah Lorenzino et également Simon Debert, pour avoir aussi votre sentiment par rapport à ces ressources humaines mobilisées pour travailler au quotidien pour rendre Bruxelles un peu plus propre.
Oui, ben, je pense, je rejoins évidemment les deux autres intervenants. Je pense qu'on doit avant tout les remercier parce que le travail n'est pas facile et la tâche est immense et infinie. Et puis ce sont eux surtout qui connaissent le mieux le terrain dans lequel ils travaillent, dans lequel ils évoluent. Et donc c'est vrai que nous, on sort d'une période de réorganisation où on a senti le besoin de se réinventer face à tous les défis qui se présentent. Et donc ils ont été dans ce processus une énorme force de proposition pour réadapter notre stratégie. Donc ça, je leur en suis vraiment très reconnaissante pour cette plus-value.
Simon Debert.
Oui, ils font un travail exceptionnel. Et donc moi, je les accompagne tous les mois sur le terrain, déjà pour apprendre, comme la fonction est nouvelle pour moi, ça fait un an. Il y a différentes choses, le balayage, il y a le dépôt clandestin, il y a aussi les contrôles, etc. Donc j'ai fait le tour de tout le service, je connais toutes les personnes qui y travaillent. J'essaie aussi systématiquement vraiment de valoriser leur travail lorsque je reçois des commentaires positifs via les réseaux sociaux de gens qui disent « Tiens, il y a tel balayeur dans ma rue, il fait un travail remarquable. » Parce que c'est un travail qui est à la fois dur physiquement, qui n'est pas très bien payé, et en même temps, qui est ingrat parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires négatifs. Et donc, je pense que c'est important de montrer tout ce qui est fait grâce à ces personnes. Et dans n'importe quelle rue, si un balayeur ne passe pas, je peux vous garantir que la situation, elle s'aggrave, mais c'est très, très rapide. On ne voit pas toujours ce qui est enlevé, on voit ce qui reste, mais il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont enlevés, et c'est un travail extrêmement
important. C'est aussi un travail très ingrat et désespérant, hein, parce que leur travail est à peine fait, c'est de nouveau sale. Et donc, ils reçoivent très, très peu de félicitations et c'est toujours à recommencer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la motivation par rapport à ces agents est tout à fait essentielle.
Alors, il nous reste encore deux petites minutes. Une question d'une manière générale, un peu pour tout le monde, et chacun peut intervenir comme il le sent. Est-ce que la propreté est-elle aussi, quelque part, une question de fierté collective et de respect de l'espace public, Adèle Lassouli?
Fierté collective, certainement. Je pense que la propreté est aussi le reflet à un moment donné de la du haut degré de considération qu'on peut avoir pour la citoyenneté. Moi, je pense que oui, la propreté dans la cité, elle est quelque part le reflet de toute une série de thématiques. Hein. Moi, je dis toujours que la propreté, en fait, elle se situe en aval de beaucoup de thématiques, que ce soit les problèmes de toxicomanie, de marginalisation, de problèmes de vivre ensemble. Et donc oui, c'est important de prendre soin de la propreté.
Vincent De Wolf.
Mais oui, moi je crois que je vous l'ai dit, c'est la mentalité générale, c'est la fierté de la ville, mais ça va loin, parce que moi je remarque aujourd'hui, quand on change les poubelles, quand on change le mobilier urbain, quand on change les abribus, quand on fait des aménagements, les gens estiment que c'est leur salon, que c'est leur ville, leur rue, et demandent leur avis. Donc il faut profiter de ça, pour que les gens aient quelque chose à dire, et quand ils critiquent, moi je dis toujours, c'est bien de critiquer, mais vous allez faire quoi pour aider? Parce que je dis la même chose que vous, je sais pas, avoir 50 000 balayeurs, un balayeur en dessous de chaque habitant, à côté de chaque habitant. Et la crasse, elle ne vient pas toute seule. C'est les gens qui jettent leur... Et il y a parfois de l'agression. Moi, j'ai quand même un agent de répression qui a eu la mâchoire cassée parce qu'il a rattrapé un gars qui, avec sa voiture, qui fait le geste, là, hein, comme ça, bouffe, de jeter le mégot à travers la vitre ouverte. Et le gars lui dit, monsieur, vous avez fait un mégot, vous avez jeté un mégot, c'est entre 50 et 80 euros. Le gars, à travers la vitre, a baissé, tout d'un coup de poing. Un autre a vidé devant un balayeur de rue tout son cendrier, avec une grosse voiture. Il vide son cendrier devant la personne. Ramasse, c'est ton travail. Donc ça c'est vraiment un comportement scandaleux d'un habitant. Ça arrive aussi, malheureusement. Oui.
Simon Debert, votre avis?
Oui, ben, tout à fait. Donc je voudrais vraiment remercier déjà toutes les personnes qui travaillent dans le service de la propreté, que ce soit à Forêt ou au niveau de l'agence régionale, mais aussi on voit énormément de citoyens, de citoyennes qui s'engagent, qui deviennent ambassadeurs, ambassadrices de la propreté, qui s'inscrivent au clean-up qu'on organise de manière soit individuelle, soit collective, mais aussi de plus en plus qu'on essaie de développer ce réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui prennent des responsabilités. Alors on n'est pas encore à une personne par rue comme à Etterbeek, mais on a désigner toute une série de petites places, de petits parcs. On essaie de trouver chaque fois un petit responsable de zone. Et on voit que les gens sont investis et ont envie de rendre leur ville propre. Et donc, c'est vraiment très encourageant.
Mmh. Encore un mot, Déborah Lorenzino.
Oui, mais donc quand l'espace public est propre, il est beau, bien entretenu, végétalisé, effectivement il est davantage respecté aussi parce qu'on se l'approprie mieux et donc on respecte ce qu'on considère comme étant son lieu de vie et davantage respecté, effectivement.
Voilà, c'est ainsi, le temps passe très très vite, on pourrait encore parler pendant une heure, mais bon, il faut rendre tout de suite l'antenne. Déborah Lorenzino, je rappelle que vous êtes échevine de la propreté publique des filles à Schaerbeek. Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek et maire, Simon De Beer, échevin de la propreté publique PTB à Forêt, et Adèle Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et c'est ainsi qu'on referme votre cache sur table. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.